I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment créer une histoire quand la France a les yeux braqués sur vous? Comment laisser épanouir son amour pour l'autre quand on a des rivales juste à côté de nous? Quand on aime, comme aime Lucille, eh ben c'est finalement simple, simple comme bonjour.
On est en 2019, je suis en Bretagne, je suis spa manager à la thalassothérapie de Quiberon exactement. Et donc je vis une rupture très compliquée, très difficile, vraiment dans la douleur. Et donc je décide de déménager, de suivre ma mère qui déménage dans le sud. C'est un gros changement, je décide vraiment de tout quitter, le travail, les amis, une partie de ma famille pour vraiment changer de vie quoi. J'ai besoin de partir, de m'éloigner de cette personne, de m'éloigner de la zone géographique où tout est arrivé. Et donc, voilà, je me dis que pour un nouveau départ, il vaut mieux tout quitter. La Bretagne, c'est vraiment là où je suis née, là où j'ai grandi. Je suis vraiment bretonne pur beurre, comme on dit. Donc, c'est pas forcément évident pour moi de partir, mais je ressens profondément qu'il faut que je le fasse, quoi. J'ai 31 ans à ce moment-là. Donc, voilà, je suis chez ma mère dans le sud. Je commence à faire des recherches pour trouver un autre travail et en fait je décide de partir en travail saisonnier à Chamonix. Là je vais vivre une saison qui va me faire beaucoup de bien au moral, au mental. Ça me permet vraiment de rencontrer d'autres personnes, de me retrouver moi-même, de savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus, même de remettre un petit peu en question aussi mon métier actuel. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Voilà, il y a vraiment tout qui me permet de reset vraiment mon ancienne vie et de penser que à moi en fait, à autre chose. À Chamonix, c'est une saison, hein, donc il y a tout le côté festif que je n'avais plus dans ma vie, donc je me redécouvre de ce côté-là. Il y a aussi tout le côté sérieux parce que j'avais quand même un travail à tenir. Puis c'est un environnement magnifique. Chamonix, c'est une ville exceptionnelle, une nature exceptionnelle, donc vraiment il y a tout pour se ressourcer, quoi. Et juste au moment où je dois décider si je veux renouveler et rester vraiment en CDI, le Covid arrive et donc là je suis obligée de retourner donc chez ma mère, de retourner dans le sud avant le Covid. Le fait de revenir chez ma mère c'est toujours un plaisir, ça se passe très bien, on est très proches et ça me permet à nouveau de continuer à me poser des questions sur mon avenir et sur ce métier si je veux le continuer. C'est là aussi, chez ma mère, que je vais aussi remettre les mains dans le potager, parce que c'était une passion pour moi. Donc là, je remets les mains dans la terre, je refais un potager chez eux, je me réinvestis là-dedans. Et du coup, je me dis en fait que j'ai plus trop envie de continuer dans la voie de l'esthétique, quoi. En fait, j'ai commencé à avoir vraiment cette passion pour la terre, pour la permaculture, toutes ces choses-là. Il y a déjà, maintenant ça fait plus de 10 ans, c'était vraiment une passion. Hein. Je passais toutes mes journées déjà là-dedans, donc c'est pas tombé du ciel quoi. Cette pause, c'est un retour aux sources, et puis c'est là où on se pose les bonnes questions, quoi. En plus, pendant le Covid, on a du temps. Mon envie, c'est de changer complètement d'orientation et de travailler dans le maraîchage. Donc, ce que je fais, c'est qu'au bout d'un moment, je me lance et je dis non aux opportunités dans l'esthétique. Je refuse le CDI que je pouvais avoir et je m'inscris dans une formation pour passer un diplôme dans le maraîchage. C'est une formation qui était sur hier. On est en avril et en même temps, je suis toujours donc les mains dans le potager de ma mère. Et un jour, mon beau-père vient et me dit, en rigolant, tu devrais trouver l'amour dans cette voie-là. C'est plutôt à l'amour et dans le pré que tu devrais écrire. Je m'en rappelle plus la phrase exacte qu'il m'a dit, mais il me dit ça. Ça aurait pu être pris vraiment à la rigolade et je l'ai pas pris à la rigolade. En fait, j'ai pas entamé la formation, j'ai fait toutes les démarches, j'ai passé les entretiens, les écrits, tout. Donc là, il y a un petit délai avant d'avoir la réponse si on est accepté ou pas. Et pendant ce temps-là, donc moi, ce que mon beau-père me dit, ça fait écho en moi. Donc en parallèle, en fait, en même temps, je vais écrire à l'amour et dans le pré. Le soir même, c'est sur Facebook, je vais regarder les portraits qui ont été diffusés en fait en mars, mais moi je les avais pas vus. Donc je les retrouve là sur Facebook et je les regarde. En fait, j'en regarde un. Je regarde celui uniquement de Jérôme parce que je vois tout simplement ce qui m'attire, c'est qu'il est maraîcher et son âge. Il n'y a pas beaucoup de gens de mon âge dans la liste des prétendants. Ce que je fais, c'est que je clique sur le premier qui m'intéresse et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne regarde que son profil à lui, quoi. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le coup de foudre parce que j'ai pas Jérôme en face de moi, mais il y a vraiment quelque chose qui me dit que cette personne-là, il faut que j'y aille en fait. Il y a une espèce d'aimant, une espèce de voie à suivre. Je le vois, je le trouve plutôt lumineux comme personne, je trouve qu'il a l'air gentil. C'est la façon dont il parle, forcément, ça résonne en moi, il a beaucoup de valeurs communes, et puis il veut des enfants. Donc voilà, et en plus de ça, forcément, il me plaît beaucoup à l'œil. Donc l'étape suivante, je prends ma plume le soir même, donc il est très tard, il est 1h du matin, quelque chose comme ça, donc j'écris des brouillons pendant plusieurs jours, j'écris, puis je retravaille un petit peu cette lettre. Dans ma tête, c'est... Je pense que c'est assez clair de ce que je veux dire, je veux pas trop en dire. Pour quand même susciter un peu l'envie, il faut quand même en dire un petit peu pour que ils se disent cette personne-là correspond un peu. Donc c'est pas un exercice facile, mais en fait ça vient un peu tout seul. Je me dis surtout il faut pas non plus que je parle que de moi, que je raconte que ma vie. Le but c'est de séduire, donc de s'imaginer à un premier rendez-vous en face à face. On parle pas que de soi en fait. Donc je dis des petites choses qui me semblent faire écho à ce qu'il a dit dans son portrait. Je réponds à ses attentes. Par exemple, je réponds au fait qu'il il dit qu'il veut avoir des enfants. Je lui réponds en disant que mon souhait le plus fort, c'est de devenir maman. Je me décris assez brièvement. Je dis que je suis une bonne vivante, qui a envie de croquer la vie à pleines dents, que je fais un peu de sport, mais pas trop, que j'aime beaucoup cuisiner, même si je suis pas très douée. Voilà, j'essaye aussi un peu de mettre un peu d'humour. Je dis aussi mon métier actuel. Je lui dis aussi que je suis passionnée de permaculture, que je suis passionnée par la nature, par le maraîchage. Donc après je dis pas forcément que je suis en réorientation, tout ça pour moi c'est des détails qui polluent le discours et qui n'ont pas forcément d'intérêt à un premier contact en fait. J'ai pas eu envie de me décrire physiquement, j'ai envoyé des photos donc plein visage et des photos de la tête aux pieds. Je fais cette démarche dans le secret, donc je fais tout sans en parler à personne. J'en parle très rapidement à ma sœur, mais une fois que j'ai fini mes brouillons, voilà, elle me donne juste un conseil en me disant « ne parle pas juste que de toi ». Donc voilà, j'en parle simplement à ma sœur et en fait j'envoie le courrier tout simplement, alors avec 3 timbres parce que j'ai peur que ça n'arrive pas. Mais à ce stade-là, je n'en ai pas parlé à mes parents, à ma famille, c'est dans le secret encore. pense que j'ai dû écrire en avril, on m'a recontacté en mai. Donc là, on a plusieurs entretiens, dont un entretien psychologique, pour savoir évidemment si on ne veut pas du mal aux agriculteurs et si on n'est pas complètement perturbé, ce qui est logique. Bah, moi, je suis vraiment motivée parce que en plus, plus j'avance dans les étapes et plus... Je suis quelqu'un d'assez convaincu par les signes. Alors je suis très terre à terre et carré normalement, mais je me dis toujours que s'il se passe certaines choses et si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Donc là, le fait qu'on me recontacte et que je continue à passer les étapes, c'est forcément que c'est le bon chemin, quoi. Du coup, on nous appelle et donc un jour, on me dit « Voilà, ton courrier va être remis telle date. » Alors, il me semble que c'était tout début juin à l'agriculteur. Et donc, si jamais il te choisit, tu seras recontacté pour partir en speed dating sur Paris. Et donc, il y a un petit peu d'attente jusqu'à ce jour-là. Et par contre, si on n'est pas recontacté, du coup, c'est que, voilà, il ne nous a pas sélectionné. C'est surtout du stress qu'on ressent, en fait. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très bizarre aussi, c'est que nous, on a l'impression de le connaître parce qu'on a vu un portrait, quelque chose, avant qu'il ait connaissance de notre existence. Donc, c'est très spécial, quand même. Le jour où on m'appelle pour me dire que je pars en speed dating, je suis avec ma sœur en voiture. Donc, ça fait tout bizarre. Hein. Moi, j'avais les jambes flageolantes, enfin... On passe dans un autre univers, là. On se dit, oulala, là, ça prend vraiment forme, quoi. En fait, c'est plus de l'hypothèse. J'ai jamais trop pensé aux caméras. Déjà, dès le début, il y a une force qui m'attire vers lui. Il y a un instinct qui m'amène vers lui, qui fait que, en fait, tout ce qui est autour, qui pourrait être un obstacle, je le vois pas forcément. Alors, il y en a beaucoup qui pourraient dire c'est inconscient ou un peu enfantin, mais je ne vois pas le danger spécialement. Je suis consciente qu'il va y avoir des caméras, mais ça ne m'effraie pas. Du coup, on nous donne une date. Donc, les speed dating de Jérôme auront lieu le 13 juin. Donc, je prends mes billets, ma valise, et puis en route. Hein. Comme toutes les filles, en fait, on fait du shopping. Juste avant, on cherche la plus belle robe, on cherche à se mettre en valeur sans en faire trop non plus, parce que ça reste un agriculteur, donc pas besoin non plus de sortir les paillettes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, on se prépare, on achète aussi le petit cadeau qui va bien. Donc là, je vais prévenir ma mère et mon beau-père en leur montrant le portrait. Un jour, je leur demande de s'asseoir, j'ai quelque chose à leur dire. Donc je leur montre le portrait et je leur dis « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, ils comprennent assez rapidement, mais ils n'ont pas encore compris que je monte à Paris. Donc je leur dis il a choisi ma lettre, donc je monte à Paris pour les speed dating. Après, je suis quelqu'un qui, quand même, est assez aventurière et qui tente toujours des choses, qui n'a peur de pas grand-chose, tout ça. Donc, ça les étonne pas spécialement de moi. Mais voilà, ils m'encouragent et ils espèrent surtout que, comme tout le monde, qu'on va pas non plus se faire trop de mal et que ça va fonctionner. Là, je prends le train et puis je me rends à l'hôtel où toutes les prétendantes sont logées. Et puis, je passe la soirée avec les prétendantes de Jérôme qui sont toutes adorables, avec qui on s'entend très très bien. D'ailleurs, c'est ça qui est très quand même déstabilisant, c'est qu'on s'entend bien entre nous alors qu'on est en concurrence entre guillemets, quoi. Et puis le lendemain, la journée est très longue parce que moi je vais uniquement le rencontrer le soir, je crois il sera à peu près 18h, donc comme toutes les filles, hein, je me compare aux autres, et déjà pour le physique parce que je les connais pas, donc c'est la première chose qu'on voit. Physiquement, on trouve toujours mieux chez l'autre, donc il y a forcément d'autres filles que je trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus mince, où je me dis ça va être chaud. Je me dis rien n'est perdu, et puis ça se joue aussi pas que sur le physique, et puis des fois ça se joue aussi sur des choses qui ne s'expliquent pas, hein. Je m'attends pas à grand chose en fait, je fonce, je fais confiance à ce que me dit mon cœur, et mon cœur me dit que c'est là qu'il faut que j'aille, donc j'y vais, quoi. Donc oui, après une grosse journée d'attente où je vois tout le monde passer, donc en plus elles reviennent toutes encore plus amoureuses les unes que les autres de Jérôme en disant qu'il est superbe, qu'il est magnifique. Donc voilà, je me dis, bah c'est mort, ça s'est super bien passé avec celle-ci aussi, donc je suis paumée un peu quoi. Donc j'ai très chaud parce que c'est une journée, c'est très chaud. J'ai des ampoules parce que j'ai mis des nouvelles chaussures comme une débile, comme beaucoup de femmes. Je suis dans un état, enfin pour moi, lamentable, toute transpirante. Et puis voilà, je me rappelle, c'est un escalier qui descend, donc je descends et je le vois, je ne vois que lui en fait. Je ne vois pas les caméras autour, je ne vois que lui en t-shirt blanc et en jean. Et je me rappelle, il refait ses lacets et il se relève et voilà. Là, je suis happée en fait et on rentre en discussion comme ça. Et c'est très court, ça dure 10 minutes. Il n'y a pas de gêne. Parce qu'il n'y a jamais eu de gêne entre moi et Jérôme, même à ce moment-là. C'est un mélange de soulagement, de « enfin on y est », et un mélange de bah, « nous c'est un coup de foudre ». C'est indescriptible comme sentiment, c'est juste le moment présent et on est plongé dans les yeux de l'autre en fait. On se dit les choses essentielles, c'est-à-dire que voilà, on recherche la personne qui sera notre épaule pour le reste de notre vie, qui sera le père et la mère de nos enfants. On recherche quelqu'un qui partage notre quotidien dans les joies, dans la douleur. Enfin, on se dit qu'on recherche les mêmes choses en fait. Je ressens plus au niveau du cœur et puis je tremble un peu. Il y a un moment aussi j'ai failli pleurer et puis j'ai réussi à me retenir. Enfin, je passe un peu par toutes les émotions quoi. Et puis très rapidement, on fait un signe pour nous dire que les 10 minutes sont écoulées et que voilà, faut repartir, quoi. Donc Jérôme arrive et ça, il met pas 40 ans à donner son choix, hein. Voilà, il annonce avec qui il aimerait continuer et qui il invite à venir séjourner à la ferme. Donc il va d'abord annoncer Alicia et ensuite mon prénom. Je tremble encore, j'ai encore envie de pleurer. Enfin, c'est un état second un peu. Hein. J'ai vraiment vécu un coup de foudre, mais c'est pas le coup de foudre comme quand on a 16 ans. Et c'était vraiment l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur, que c'est la personne, c'est lui. Ça va être mon tout en fait. On sait qu'après à telle date, forcément on nous recontacte pour les détails, l'adresse et compagnie. Donc voilà, que ce sera à telle date, à cet endroit-là. Maintenant on n'est plus sur du physique, là on va rentrer dans la connexion et voir si on peut aussi vivre dans la ferme. C'est pas le tout de bien s'aimer, hein, mais il faut aussi embrasser tout la vie de l'agriculteur. Je suis partie le matin je crois que c'était le 24 juin. Voilà, j'ai pris ma petite voiture, j'ai rencontré l'équipe pour m'installer le micro. Et puis voilà, ils m'ont suivi jusqu'à ce que j'aille à la ferme. Et puis là, tout a commencé, quoi. Je sais que tout le monde connaît L'amour est dans le pré, mais je suis pas très audience, tout ça. J'ai pas conscience de tout ça, en fait. En plus, c'est pas diffusé en direct. C'est-à-dire que nous, on est filmés, on vit notre truc, mais c'est pas diffusé en même temps. Donc, il y a un décalage entre ce que nous, on va vivre et quand ça va être diffusé, quoi. Donc, je suis pas là en train de me dire, je passe à la télé, quoi. J'ai peur, en fait. J'ai peur. Je suis un peu stressée, comme tout le monde, qui arriverait dans un environnement qu'il connaît pas, avec des gens qu'il connaît pas, avec un caméra braqué sur elle, des micros. Je suis un peu stressée quand même, c'est sûr. Et puis ça, on le voit bien dans le premier épisode, mais du coup, je trouve pas la porte d'entrée. Enfin, je les cherche parce que la maison de Jérôme est à l'étage. Enfin, bref, donc ça participe au fait que, bon, on arrivait un peu folklore quand même. Avec Alicia, on est complètement différente. Alicia, c'est une brune, cheveux un peu frisés, enfin, je parle déjà niveau physique, mince, alors que moi, je suis une ronde, les cheveux bien raides, enfin, rien à voir déjà niveau du physique. Et puis, je ressens, oui, les premières heures que, effectivement, elle est motivée aussi et que, qu'elle y croit aussi et que, voilà, elle n'est pas venue non plus pour trier les perles, quoi. Donc moi, j'arrive, il m'a pas entendu arriver, il est en train de faire la cuisine avec Alicia. L'anecdote, c'est que lui, il a fermé la fenêtre à un moment donné, alors qu'il surveillait mon arrivée tout le temps. Donc, du coup, il a loupé mon arrivée, donc moi, j'arrive déjà en lui reprochant, en rigolant. C'est comme ça qu'on accueille les dames, quoi. Bon, c'est assez rigolo, ça casse aussi un peu le froid de l'arrivée, et ça met une autre ambiance, quoi. Donc là, je vois les caméras, je vois l'autre prétendante, voilà. À la limite, on est plus dans une phase où, bon, ok, j'atterris, là, je me rends peut-être un peu plus compte de ce que je suis en train de vivre, quoi. Du coup, à ce moment-là, le programme, c'est de partir dans les champs. Il y a des bottes de foin à faire. Donc, on prend le tracteur et puis on va dans le champ d'à côté pour faire les bottes. Ça se passe très bien, sauf que moi, j'ai l'impression à ce moment-là d'être plus... en mode plus copine, et j'ai l'impression qu'elle est plus dans la séduction avec Alicia. C'est ce que je ressens à ce moment-là. En même temps, il fait 38 degrés, je transpire comme une vache, il faut le dire. Donc je suis pas à mon avantage, je suis en legging, et puis voilà, j'y mets du mien, je ramasse bien les bottes et tout, donc la séduction, pour l'instant, on n'y est pas encore, quoi. La première soirée, ça se passe très bien, et puis on a envie d'apprendre à se connaître, donc forcément on veille un peu. Et puis vers 3h du matin, on part tous les trois chacun dans nos chambres, voilà. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai pas vraiment envie d'aller me coucher tout de suite et j'ai encore plein de choses à dire à Jérôme, donc je décide d'aller le voir et de continuer la discussion. À ce moment-là, je lui ouvre mon cœur, je lui dis tout ce que je ressens et ce que je pense être notre destin, entre guillemets, et que je sais que c'est lui et que c'est le bon, quoi. Donc on va passer une nuit blanche à discuter jusqu'à 6h du matin. Et à 6h du matin, il faut retourner dans les champs. Donc on est un peu fatigué et moi je me dis, maintenant on a bien discuté, c'est pas lui qui va se lancer parce qu'il est timide, il ose pas, il est aussi le cul entre deux chaises, hein. Il veut pas se tromper, il veut pas mal faire, il veut prendre le temps, mais du coup c'est un peu à nous de bouger les choses, quoi. Il faut faire avancer les étapes en fait, et c'est pas lui qui va le faire, donc je me lance et puis je l'embrasse, quoi. Fait vraiment pour lui montrer que j'étais là, quoi, que je le voulais lui. Donc en fait, Alicia va le sentir et d'elle-même le soir, elle va dire qu'elle part, en fait. Là, c'est le moment où on va vraiment commencer à vivre des choses au niveau sentimental, émotionnel, des connexions, voilà, avec la personne. C'est vraiment là où ça prend sens. Et puis aussi, les caméras, ils ont entre guillemets obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu les moments de bisous, tout ça, donc ils s'effacent un petit peu. Donc nous, ça nous permet aussi de développer un peu la relation et voilà, de tomber amoureux, quoi. Ça me fait pas peur, le travail à la ferme, parce que j'aime ça. J'aimais déjà travailler dans les potagers, les jardins, tout ça. Donc je prends plaisir à l'aider, à ramasser des légumes. Alors par contre, une chose que je ferai jamais, c'est le tracteur, les grandes cultures, les céréales, parce que c'est pas mon dada et j'aime pas trop conduire les tracteurs. Mais sinon, je prends vraiment plaisir à l'aider au champ, et ça renforce encore plus notre relation, parce que c'est des moments où on rigole en travaillant, donc c'est hyper enrichissant, en fait. Comme j'avais tout quitté, je l'invite chez ma mère dans le sud, et voilà, on a un petit week-end de rencontre avec ma maman, donc ça se passe très très bien. Ils s'adorent tout de suite tous les deux, donc ça se concrétise, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'on avait rencontré ma mère, on est repartis tous les deux, en fait. J'ai pris mes affaires et puis j'ai emménagé chez Jérôme directement. Ça va très très vite. Les mois s'écoulent et en fait, on est plein de projets, on a envie de faire plein de choses. On a envie de refaire la boutique. On a plein d'envies, en fait. Et puis, je m'adapte à la région. J'essaie de tisser des liens avec sa famille qui vit quand même à la ferme aussi. Donc, Voilà, je prends mes marques tout doucement. Et puis au fur et à mesure, lui, il me laisse aussi toute ma place à la ferme. Donc, je prends mes marques là aussi. C'est vraiment pas compliqué parce que tout se fait naturellement. Et comme on le dira toujours, on se force à rien, en fait. Tout est naturel entre nous deux. Il n'y a pas de compromis sur ce qu'on est, ni l'un ni l'autre. On est nous-mêmes, quoi. Je me rends compte que voilà, c'est un bon vivant, hein, qu'il a des amis qui sont géniaux, avec qui on va passer des super moments. Je me rends compte aussi que c'est un acharné du travail et que voilà, on partage ça aussi, qu'on est des bosseurs tous les deux. Et puis je m'attache à quelqu'un qui est quand même très tendre, très attentionné, qui voit la vie à deux, donc... Ça, c'est super pour une femme d'arriver et d'imaginer que bah, là, il y aura la chambre de bébé, là, il y aura ceci, cela. Le nombre de femmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on se projette avec elles, bah, là, c'est le bonheur. Enceinte donc en février, on était aux anges, on a beaucoup pleuré, pour nous c'était quelque chose qu'on voulait du plus profond de notre cœur tous les deux, donc en plus que ça arrive aussi facilement entre guillemets et aussi rapidement, c'est comme je vous dis, des fois il y a des signes, hein, c'est le destin, hein. Donc Capucine est née en octobre 2021. Donc là, maintenant, elle a tout juste 2 ans. Hein. Puis ben, quand elle arrive, c'est notre poupée, quoi, notre princesse. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est Capucine pour nous. On pourra jamais décrire son arrivée et tout ce que ça nous a procuré comme bonheur. C'est indescriptible. Ça scelle notre union. Et puis là, on prend une autre dimension encore. On est une famille. Donc là, on a un nouveau rôle. On se découvre dans un nouveau rôle, celui de parent. Donc là, en octobre, elle naît. Et ce jour-là, je ne le savais pas non plus, mais Jérôme prend la décision... de me demander en mariage, et il est sûr qu'il voudra me demander en mariage, et il le fera le jour de Noël, le 25 décembre, donc le 25 au matin. Il me fait croire qu'il descend chercher mon cadeau, donc je me demande bien ce qu'il va descend chercher. Et donc il me dit de venir à la cuisine pour ouvrir mon cadeau, et là, il n'y a pas de cadeau en fait, et il se met à genoux, quoi. Donc c'était là aussi un moment exceptionnel à vivre. Et notre mariage, eh ben, c'est l'année qui suit, donc nous on fait tout d'un coup. Hein. Donc en 2022, le 27 août, on se marie à la ferme. On a décidé qu'on voulait vivre ça ici, parce que ça a plus de sens de le vivre à la ferme pour nous, dans son village de naissance. Donc on invite nos familles, nos amis, et puis on fête ça comme il se doit, quoi. Après arrive le second. Donc je suis tombée enceinte de Adonis ensuite, juste après le mariage, un ou deux mois après. Et Adonis est né en juillet 2023. Donc un petit garçon qui vient compléter notre famille, que du bonheur, quoi, en fait. On est dans le quotidien, mais on a trouvé notre partenaire pour la vie, on a fondé une famille, enfin... Moi, je souhaite à tout le monde de vivre ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, de vivre ça. Ça n'arrive qu'à très peu de personnes. Et on réalise pas toujours qu'on a vécu ça, qu'on est parti de là, en fait. Parce que nous, maintenant, on a l'impression de se connaître depuis toujours. On n'arrive plus à penser au avant et à ce que c'était sans l'un, sans l'autre et sans les enfants. On sait que c'est assez original de se rencontrer de cette façon-là. Après, on ne veut pas non plus que ça nous définisse entièrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas que Jérôme et Lucille de L'Amour est dans le Pré. Mais on a un regard quand même hyper bienveillant et on est hyper reconnaissant envers toute la production. C'est une façon de se rencontrer comme une autre, en fait. Avec les mêmes possibilités, les mêmes chances dans la vie, que ça fonctionne, que ça fonctionne pas. Je veux dire, il n'y en a pas plus de chances ou moins de chances que ça fonctionne à la télé ou pas. C'est juste un peu un hasard et une accumulation d'éléments qui font que ça matche, quoi, et que c'est magique.
«
Oh bah, message à Jérôme, non, je vais pleurer, moi. Non, ben, j'ai envie de dire aux gens, allez-y, écrivez. Écrivez à l'amour et dans le pré, ou même une autre émission. Si un jour, il y a une autre émission de ce style, pas forcément pour les agriculteurs, hein, pour autre chose, mais suivez votre cœur, il connaît le chemin. Et puis, ben, je vais quand même dire à ma petite famille que je les aime et qu'ils sont tout pour moi.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.